Voilà, bonjour et bienvenue. Il me revient au nom de l'association des Amis de la Bourrier de vous souhaiter la bienvenue en ce lieu. Je dirais bienvenue dans l'état d'esprit des éditions de la Bourrier et de l'association des Amis de la Bourrier. L'état d'esprit, c'est du soleil, puis un chapiteau pour s'en protéger. C'est un regard à 380 degrés. Et puis surtout, c'est un repas pris en commun, des verres partagés, et de la poésie et des textes. On a trop souvent tendance à croire que les poètes ou les écrivains ne sont que de purs esprits, dégagés de contingence. Et ça a failli se voir. Mais chez nous, la poésie passe par le repas. Je dirais pas la scène, par le repas et par le corps. Et surtout par le partage, c'est ainsi qu'on crée des moments d'humanité. On espère en créer un cet après-midi, puisqu'il y aura trois lectures différentes. Alors je vais très rapidement m'effacer pour laisser la parole à Michaël Luc, qui va nous entretenir de son dernier livre, et qui va surtout vous lire des extraits de Passion Canavesion. Avec ce frontispice de Canavesio qui représente Judas. Alors Judas, évidemment, on sait très bien qu'il faut s'en méfier, mais finalement, à chacun son Judas, déjà. C'est vrai que quand on embrasse, on se demande toujours si c'est le baiser de Judas. Mais ça, c'est un autre aspect aussi des éditions de la Bourrier, qui consiste à revisiter les textes fondateurs pour les redécouvrir dans leur secrète émergence. Plus tard, nous aurons une lecture de Raphaël Monticelli, La légende fleurie, et on verra comment il revisite l'histoire des saints et des saintes. Tout de suite, nous allons voir, nous allons entendre ce que Michaël Luc a pu sentir, éprouver, ressentir autour de ce personnage de Judas, qui est un personnage profondément ouvert, justement. Dans des évangiles qui sont des lettres ouvertes aussi. Voilà, donc je vais laisser la parole à Michaël en le remerciant d'être venu nous aujourd'hui.
C'est inverse.
Voilà, et en laissant Judas suivre sa route, qui est une route aussi douloureuse comme en témoigne le frontispice. Merci Michaël.
Merci à toi. Alors, de Judas, je ne sais pas grand-chose, de Canavesio, je ne sais pas grand-chose, de moi-même, je sais encore moins, mais on va quand même tenter de faire un petit bout de voyage ensemble. Quand j'ai réagi sur l'histoire de Judas, trahison, et je disais, mais peut-être pas, c'est peut-être pas si simple. Je rappelle simplement l'exergue que je donne à mon propre livre, Passion Canavesio, qui tourne autour de Judas, autour du personnage de Judas, mais en même temps qui est pour moi comme le prologue, c'est un livre prologue à un triptyque autour de Canavesio. L'exergue, c'est le suivant: ce que tu as à faire, fais-le. Je ne me rappelle plus où j'ai pris cette phrase-là, sinon que je sais que c'est dans l'un des quatre évangiles, et qu'il est bien question de la parole du Christ à l'adresse de Judas. Donc, la passion que peint Canavesio, puisque mon point de départ, c'est les fresques de Canavesio à Notre-Dame-des-Fontaines, dans le petit village de La Brigue, pas très loin d'ici, à Vol d'Oiseau, mais un peu plus long lorsqu'il faut prendre la route. Passion est à mon sens autant une passion effectivement de Judas qu'une passion du Christ. Et je ne sais plus, c'est Alain Frex qui me disait hier que s'il avait une question à me poser, c'était sur la manière dans mon texte, j'écrivais tout à coup passion Judas avec un trait d'union entre les deux. Si effectivement ce trait d'union a raison d'être pour moi, c'est bien parce que habituellement on a tendance à dissocier ce rapport entre Judas et le Christ. Et je crois qu'il n'y a de passion du Christ que parce qu'il y a passion de Judas et lycée de Versailles, comme on disait quand on était jeune. Hein. Voilà. Donc je pense que c'est profondément inséparable. Mais ceci étant, je veux dire que l'écriture de ce livre, pour moi, elle est liée à la fois au choc que j'ai reçu en 1492. Mais c'est à peu près ça, quoi. Parce que c'était 500 ans plus tard, excusez-moi. Mais c'était... Effectivement, je suis allé terminer dans cette vallée de la Roya, dans le monastère de Sahor, je suis allé terminer l'écriture d'un texte qui était consacré à la Vierge enceinte de Piero della Francesca. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert les fresques de Canavesio dans le village de la Brigue. Donc c'était 500 ans après, donc 1992 que j'ai terminé ces textes-là. Mais donc j'avais devant les yeux le choc de cette œuvre de Canavesio, avec des réminiscences de Piero, entre autres autour d'une des scènes très très particulières du cycle de la Passion peint par Canavesio, c'est notamment la résurrection. Si on regarde vraiment la résurrection de Canavesio, elle est quasiment sur le même schéma, mais on le sait, les mêmes cartons circulaient et les peintres itinérants avaient dans leur sac les mêmes cartons qui étaient empruntés aussi à des gravures allemandes et suisses allemandes. Hein. Canavesio, Piero della Francesca ont-ils eu les mêmes cartons entre les mains? C'est possible. En tout cas, quand la fresque est terminée, c'est 12 octobre 1492, c'est le jour de Christophe Colomb découvrant l'Amérique et c'est le jour de la mort de Piero della Francesca. C'est ces jeux de coïncidence des calendriers qui, moi, me touchent un peu bêtement, un peu naïvement sans doute, mais me touche. Et puis, autre chose, c'est que quand j'étais dans ce monastère de Sahor, terminant mon texte sur Piero, je me mets à lire sérieusement ce que je n'avais que lu en diagonale et par fragments. Je me mets à lire la légende dorée, la fameuse légende dorée. Et voilà, je vais vous donner l'exclusivité d'un texte où je pille joyeusement Jacques de Voracé, tu dis, et moi je dis de Voragine parce que je suis inculte. Hein. Et j'ai retrouvé donc quand même cette histoire de Judas racontée dans la légende dorée. Je veux dire que elle est un anachronisme extraordinaire. On a l'impression que c'est Freud qui est en train de raconter l'histoire de Judas. Voici ce que ça donne à peu près, ce qui devrait figurer dans le prochain livre, l'un des prochains volumes de cette trilogie autour de Canavesio. Il y eut à Jérusalem un homme du nom de Rouben, de la tribu de Dan, ou de celle d'Issacar, qui eut pour femme Siborée. Celle-ci eut un songe dans lequel il lui semblait enfanter un fils souillé de vices qui devait être la cause de la ruine de toute sa nation. Or, son temps expiré, elle enfanta un fils. Les parents furent dans une grande angoisse et ne pouvant ni tuer ni élevé pareil destructeur, ils le placèrent dans un panier de joncs qu'ils exposèrent sur la mer, dont les flots le jetèrent sur l'île de Scariote. La reine du pays trouva le panier, fit nourrir l'enfant en secret, simula une grossesse et déclara avoir mis au monde un fils. Le prince et son peuple en conçurent grande joie. Peu après, la reine eut du roi un fils que l'aîné se mit bientôt à tourmenter. Il est enfin divulgué que celui-ci n'est qu'un enfant trouvé. Alors, sans qu'on le vît, il tua son frère putatif et s'enfuit à Jérusalem, où il se mit au service de la cour de Pilate, qui lui témoigna une grande affection. Pilate voulut un jour les pommes d'un enclos. Son protégé s'empresse d'aller les cueillir. Survient le propriétaire du verger, injure et coup, le voleur frappe l'homme avec une pierre à la jointure du cou et le tue. Puis il porte les pommes au procurateur et lui conte l'histoire. Pilate lui concède les biens du défunt et lui donne pour femme la veuve. Un matin, qu'elle poussait de profonds soupirs, elle conta ce que voici. « Je suis la plus misérable des femmes. J'ai noyé mon petit enfant dans la mer et j'ai trouvé mon mari mort avant le temps et voici que Pilate ajoute en douleur à ma douleur, muni à toi contre ma volonté. » Il fut alors reconnu que Judas avait épousé sa mère et qu'il avait tué son père. C'est bizarre, hein? J'ai l'impression d'une assemblée de lettrés, là. Bon, qu'est-ce que je fais? Je choisis un divan et puis vous venez à mon chevet? Voilà, c'est quand même très, très étonnant, cette histoire. Alors, sans compter que si on regarde dans le détail du texte, en même temps, la manière dont Judas tue, c'est exactement la manière, si j'ai bonne mémoire, dont un certain Caïn, avant, tue aussi son propre frère. C'est-à-dire que tout est brassé, là, immensément brassé dans cette légende dorée. Et puis on se dit que, bien évidemment, quand les peintres, après, se mettent à partir de ce type de modèle-là, bah, ils inventent des solutions. Parce que dans le récit que je viens de faire, c'est exactement aussi le Judas pendu qui sert de frontispice. Le verger de pommes, il y est. L'arbre, la clôture, l'enclos, tout ça, ça y est. Hein, c'est comment un peintre, si vous regardez dans le livre, cette reproduction du Judas pendu de Canavesio, comment un peintre va résoudre picturalement, mais vraiment picturalement, des récits contradictoires. Comment il va les faire coexister à l'intérieur de son propre tableau. Et ça, quand on parle de peinture naïve à propos de ces primitifs italiens dans les vallées du haut pays niçois et du Piémont, quant à la naïveté, j'en doute fort. Hein, ce sont des gens qui ont lu les textes, qui manipulent les images depuis longtemps, qui, je dirais pas que c'est Max Ernst quand même, mais la pratique du collage, elle existe déjà là en germe, je pense dans cette façon de faire coexister des éléments extrêmement disparates et de les retailler et de les reproposer dans la construction d'un espace autre. Voilà. Voilà, donc c'est aussi pour ça que ça m'intéresse. Puis l'autre chose qui m'intéressait dans cette histoire-là, c'est, bon, alors il se trouve qu'il y a un livre, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ces fresques de Canavesio à la Brigue, il y a un livre d'un père abbé qui s'appelle le Père Avena, que j'ai lu attentivement, moi je ne suis ni historien de l'art, je n'ai pas cette prétention-là, ni spécialiste de théologie, brasser toute la symbolique du monde, mais je trouve extrêmement intéressant ce livre-là, aussi pour un aspect très, un petit détail, c'est comment il raconte, dans sa propre lecture, ce Père Avena, la façon dont, selon lui, Canavesio non seulement raconterait l'histoire de la passion du Christ, mais aussi l'histoire locale et l'histoire des trahisons entre telle et telle tendance, entre la principauté de Monaco, là. Les Grimaldi et puis les Lascaris, voilà. Comment toutes ces histoires s'imbriquent, comment les histoires de trahison et de repas auxquels on invite quelqu'un et puis on finit par le tuer, tout ça c'est déjà mis en place aussi dans... Enfin, on a l'impression de lire un peu Machiavel, quoi. Après tout, hein, c'est un peu les mêmes histoires. Mais tout d'un coup, on a aussi une transposition de ces conquêtes de pouvoir dans l'aventure picturale, dans l'interprétation picturale de Canavesio. Comment aussi, à partir des commanditaires, tel lui commande cela, on va utiliser l'argent d'une rançon qui était promise, qui n'a pas été versée, pour payer le peintre. Il y a aussi ce genre d'histoire. Donc là, les 30 deniers trouvent un usage. Voilà. C'est un peu toutes ces histoires-là. Et puis, il y a aussi cette petite chose que j'avais trouvée, parce qu'à l'époque, je m'étais renseigné, donc j'avais demandé, comme j'avais des liens avec la médiathèque de Grasse, j'avais demandé aux amis de la médiathèque de Grasse de faire des recherches pour moi. Ils avaient cherché dans Nice historique, une vieille revue régionale, dans une édition de 1946, j'avais déjà trouvé des premiers éléments sur Canavesio, et puis aussi dans un numéro de l'année 1950, j'étais tout petit, c'était l'année où j'apprenais à écrire, en 1950. Et il y avait ce petit passage que j'avais souligné à l'époque, que je vous lis juste comme ça. Pour rapprocher le saint et pour être plus sûr de lui ressembler, le peuple le façonnait à son image. Bien souvent, des gens du pays posèrent devant l'artiste ambulant. Aussi, retrouve-t-on, 4 ou 5 siècles après, sur le visage des saints, des caractéristiques physionomiques de paysans du cru. Décoiffait-il le saint et son auréole. Vous avez un visage contemporain. Ce saint Antoine d'Antrone, au front plissé, la barbe grise en collier, le regard malicieux, vous l'avez rencontré à l'entrée du bourg. Cette opulente Madeleine de Saint-Dalmas ressemble à l'une de ces campagnardes qui binent les pommes de terre et manient un sac de blé avec aisance. Tel berger d'une nativité a la lourde veste et le chapeau rond de nos montagnards. Ce bambin emmailloté, doron, est ligoté sur une planche inclinée, comme on pratiquait naguère dans le pays. Ce Saint-Joseph de Villars est vêtu comme un charpentier de la région, l'escarcelle de côté, des outils dans un panier, la grande scie accrochée à un bâton appuyé sur l'épaule. Et c'est déjà quelque chose, à l'époque où moi je travaillais, avant de découvrir ces fresques sur Piero della Francesca, ce qui m'étonnait quand je voyais cette Vierge enceinte, enfin quand c'était ouvert pour moi la porte de la petite église de la Momentana qui jouxtait à l'époque le cimetière. Maintenant la fresque a été déplacée pour des raisons touristiques et elle est dans le village même. Et je ne l'ai pas revue depuis, je ne sais pas si j'ai vraiment très envie de la revoir dans d'autres conditions. C'est l'heure de la trahison. Et donc, quand j'ai découvert cette fresque de Piero, bon, puis j'étais allé revoir tout le grand cycle de Piero à Arezzo, aussi à la cathédrale, au dôme, c'est que je trouve que si vous avez eu la possibilité d'aller dans ce coin-là de l'Italie, vous regardez ces fresques, et vous regardez les gens, et surtout dans les campagnes, moins dans les villes, mais dans les campagnes alentour, vous vous dites, mais c'est les mêmes personnes. Ça n'a pas bougé depuis 5 siècles. Ce sont les mêmes. Les paysannes ont cette beauté, cette façon d'être plantées en terre, comme est cette Marie de Piero. Voilà, moi, ça me rappelait complètement une femme qui a été chère dans ma vie, qui était une grand-mère adoptive, que je voyais pisser debout sur le sillon d'un champ. Mais qui avait cette espèce de prestance, cette espèce de fierté, cette façon de poser la main sur la hanche. Alors quand on est, j'imagine, je ne peux qu'imaginer, excusez-moi, je ne suis qu'un homme, quand on est enceinte, ça doit être beaucoup plus, c'est assez, un geste probablement un peu naturel, comme ça, d'apaiser ce qui pèse sur les reins. Et cette cette Marie de Piero, elle est absolument sublime et elle ressemble aux paysannes qu'on peut voir dans ce pays-là. Elles ont les mêmes, je reprenais un vers d'un poète qui a beaucoup marqué mon adolescence, qui était Lucien Becker, paupières lourdes comme des céréales, Voilà, cette façon de... Cette humidité du regard, cette humidité aussi presque des paupières. De, c'est, oh bon, c'est une très grande beauté. Et j'étais vraiment, moi, travaillant sur... finissant de travailler sur Pierrot, je découvre ces fresques de Canavesio, et c'était la même chose, j'avais l'impression de retrouver des visages, que je, enfin des gueules, quoi. C'est-à-dire que le cloueur que vous pouvez voir dans les fresques de Canavesio, je vous assure que je l'ai rencontré au coin d'une rue, dans les rues de Tende, hein, des artisans qui ont ces têtes travaillées à la serpe, travaillées par le temps, travaillées par les années de travail, justement. Il y a une espèce de très très grande émotion qui surgit de tout cela. Voilà, sinon, ben, vous voulez que je vous parle de Canavesio? Je vous disais, je ne sais rien de Canavesio. Plus exactement, j'ai cherché, mais on sait très très peu de choses de Canavesio. Le premier texte qui témoigne de Canavesio, c'est de son existence et de son existence en tant que peintre, date de 1450, la dernière commande ou dernière trace où il y a une signature qui permet de témoigner de son œuvre, est de 1500. Donc on sait au moins qu'il y a à peu près 50 ans d'activité, mais à part les commandes, le fait qu'on sache qu'il y a probablement sa présence à Peille, à Peillon, à Saint-Étienne de Tinée, à Pignat de l'autre côté de l'Italie, à je sais plus, enfin à Taggia aussi, je crois. Hein. Bon, voilà. On ne sait quasiment rien de cet homme. Donc, ce que je vais faire sur trois livres, c'est essayer de restituer, non pas un Canavesio historique, mais une fiction de Canavesio dans laquelle, je pense, c'est comme décompose son pinceau sur une page, je crois que de toute façon c'est une signature, peut-être que je signerai ces trois livres, j'ai déjà signé le premier, donc je vais peut-être vous lire quelques extraits. Voilà. Et je vais lire délibérément le dernier chant, parce que c'est le plus insupportable. Voilà. C'est celui où... Parce que, bon, le Passion Canavesio, si vous avez l'occasion de découvrir les fresques, si vous avez les fresques en tête, ça facilite un peu la lecture. Ça n'est pas absolument, absolument indispensable. Je pense qu'on peut lire autrement. Mais si on a les fresques dans la tête, en même temps, on s'aperçoit que le texte suit assez près quand même les images. Hein. En fait, comme je suis incapable de dessiner, je me suis dit, je vais faire une bande dessinée. Il n'y a que le texte, là. Et le septième chant, est sur cette figure dans le cycle des fresques. Du Judas pendu. Et il n'est effectivement pas très, très aguichant. Vous le regarderez dans le livre. Je vais peut-être me mettre debout. Il pend, l'éventré, l'éclaté, l'éviscéré. Il pend de lui, tout tombe. La robe et peau qui pend, qui dénue de l'horreur, il pend, l'étranglé, le crevé. Il pend. Sa langue est vomie. Sept dents, sept morceaux de lune ne l'ont pas coupé. Il a yeux blancs, le crâne qui déjà ressort par les orbites. Deux araignées velues embrassent ses seins. Les côtes déchirent le peu de peau qui reste. Il pend, il pourrit sur l'arbre, pomme rouge dans les feuillages. Il pend hors du jardin et pend aussi la merde hors des boyaux. Sac, il est sac, bourse pendue à l'arbre. Il pend l'exilé hors du jardin chassé et n'est pas un visage ce visage. et n'est plus un corps, ce corps qui pend, tout tombe par ce ventre des derniers mots, yeux béants, bouche béante, ventre béant, boyau béant, tout suinte la mort. Ici, sous la fenêtre, ici, sous la bouche de lumière, peindre, pendre, plaindre. Et quand ils viennent, eux, les fidèles, quand ils entrent, ils ont les yeux tournés vers l'entrée du ciel dans la nef. Ils ne savent pas ce qui les aveugle. Ils ne savent pas ce qui du ciel ou du pendu sous le ciel oblige leurs yeux à s'ouvrir. Ils crient, leurs yeux. Ils crient. Ils sont là, devant cela, bras ballants, bras pendants, dans le cri qui les étouffe. Ils sont là, devant cela, eux aussi, égaux, Judas. Ils pendent. Ils pendent. Les organes, puanteur, tout se défait, se décompose, pourriture de nous, miroir des pourritures, le temps poursuit son œuvre de scalpel, griffe du temps soulevant le diaphragme, découpant, taraudant, abdomen, dévoré, tout pend, tout tombe, du trou du corps, tombe, écorché, crevé, tout est crevé, glaire, salive, sang, humeur, chiasse, tout coule et empeste. Là-haut, près du nœud, l'oreille exhibe son point d'interrogation. Et c'est suspendit. Et se crucifia. Judas, l'immonde, l'immondice, est là sous la fenêtre qui ne l'éclaire pas. La lumière, dans les yeux de ceux qui viennent, l'auréole. Noire la nuit, tombe et fait limbe, cercle ébauché, brisé par l'aile du griffu. Les déjets des entrailles, de l'œuf qui gîte dans le ventre, de cette anatomie monstrueuse qui pend, de la fétidité, il accouche, le parturien, et le griffu forceps arrache l'englouti au grouillement funèbre d'excréments et de fiel. Le voici, lui, le nu, le nouveau-né ou mort, hors des tripes, vomissure entre les vomissures, le voici l'immergé, l'extirpé, le déraciné, le voici lui, le nu, au sexe nu comme un index, le voici tiré vers la bouche basse du griffu. Il a cheveux collés par les humeurs et l'abjection du ventre. Il va d'un ventre à une bouche. Il va, il ne va pas, torture sans fin, des digestions, il naît entre deux tourments, Judas et demi. L'autre, le démon, l'autre a fouillé dans le tas dégluti par cette bouche-gueule qui éructe et vomit les viscères. L'autre arrache à Judas ce qu'il ne rend pas. Judas est demi. Il ne rend pas l'âme étouffée sous la langue. Il est né, l'enfant.
Voilà. Suite, je ne sais pas dans combien d'années. Ça dépendra de moi d'abord et de l'éditeur aussi. Demain. Non, mais il y a déjà une partie hein, de ce qui est écrit à venir. Il devrait y avoir donc après deux volumes, un qui va creuser ce sillon de Canavesio s'identifiant à Judas et de l'auteur de cette histoire peut-être s'identifiant lui-même à Judas. C'est juste une petite clé en passant comme ça, parce qu'il paraît qu'on a besoin de clé de temps en temps pour lire. Je ne sais pas si dans ceux qui étaient là hier, quand j'ai lu un passage du livre, vous vous rappelez un moment où je parle de ce Yudeo Yehuda. Yehuda est l'un de mes prénoms. Merci.